Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Nous vous parlons tous les jours de la justice aux ordres du ministère de l'Intérieur, de ces accidents si souvent mortels de commissariat ou de contrôle d'identité, devenus affaires classées après des conclusions de légitime défense imaginaire. Comme par exemple l'affaire d'Odile Morin, cette militante en fauteuil roulant, au courage sublime et inusable. Comme pour Rémi Fraisse, Adama, Théo et tant d'autres victimes. Le pays des droits humains est devenu celui de la justice aux ordres de la police. Mais pas que. Les chambres dites sociales de nos tribunaux sont aussi, selon l'expression de Franck Desprez, à la botte des capitalistes premiers de cordée contre les intérimaires premiers de corvée ou leurs familles endeuillées. Profession cordiste. Attention, danger. On nous les montre suspendus dans les airs, le long d'une falaise ou d'un gratte-ciel. Mais ils sont aussi souvent dans des silos ou des cheminées d'usine. 10 000 cordistes exercent en France un des métiers les plus dangereux. 23 sont morts depuis 2006. Et pourtant, ils restent inconnus. Vous souvenez-vous du procès de 2019 où ont été condamnés le géant du sucre Cristal Union et un sous-traitant pour la mort accidentelle de 2 cordistes dans un silo à Bazancourt dans la Marne. Le 6 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Reims rendra son verdict dans un autre procès, suite à la mort d'un autre cordiste, au même endroit, dans un de ses silos à sucre. Dans Mediapart, Dan Israël nous les rappelle. Qui connaît cette profession, qui n'est pas reconnue comme telle, occupée par des intérimaires itinérants pour une grande part, où une formation de quelques semaines suffit à vous lancer, et où il est recommandé d'acheter son propre matériel pour garantir sa propre sécurité. Éric Louis, qui était présent à Bazancourt lors du second accident mortel, a cofondé dans la foulée l'association Cordistes en colère, Cordistes solidaires. Le 6 décembre 2018, l'entreprise ETH, sous-traitante de Cristanol, a été déclarée coupable d'homicide involontaire sur la personne de Quentin Zahraoui Bruat. Elle a été condamnée à une peine de 10 000 euros d'amende avec sursis. ETH devra aussi verser des dommages et intérêts aux membres de la famille du cordiste mort. Et voilà l'histoire de Xavier. 3 jours de corde et 10 ans de souffrance. On la trouve sur le blog de Éric Louis, qui nous apprend. En ce jour de 2020, Xavier souffle la fumée de sa cigarette d'un air pensif. Son regard tombe sur une petite boîte en plastique, là, sur la table du salon. Ça, c'est mes médocs. 5 le matin, 6 le midi, 4 le soir. Tous les jours. C'est pour ma psychose paranoïaque. J'ai des hallucinations visuelles et auditives. Même pilulier que celui des personnes âgées, bourrées de médicaments. On le prépare à l'avance, et le moment voulu, on ouvre un des petits couvercles étiqueté matin, midi ou soir. On avale le contenu, c'est automatique. Xavier a 43 ans. Ça fait 10 ans, pile poil, qu'il se gave de molécules. 10 ans qu'il ne travaille plus, qu'il n'a plus d'activité sociale ou physique. En moyenne, une fois par mois, la psychose se concentre, en crise. Je commence à m'agiter. J'ai le cœur qui s'emballe. Et après, je pars en live. Je fais n'importe quoi. Et je ne me rappelle plus de rien. Alors, il reste seul. En août 2020, même dans la Marne, il fait chaud. Xavier est en short, t-shirt et claquettes. Les longues cicatrices le long de ses jambes s'affichent comme les témoins de son passé, de son drame. Les tatouages sur ses avant-bras ne sont pas de fines arabesques, non. C'est du massif, comme ont dû l'être ses bras auparavant, devenus l'ombre d'eux-mêmes. Aujourd'hui, il touche l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Ça suffit pour payer les factures, pour manger, pour subsister, mais pour vivre. Mercredi 19 mai 2010. Xavier arrivait avec son chef et 2 collègues en haut du silo métallique, sur l'un des sites de la marque de sucre Béguin Say. C'était son 3e jour en tant que cordiste. Il avait décidé de suivre une formation pour ça, 5 jours, durant lesquels on apprend les rudiments du métier. Nouveau métier et nouvelle vie se profilent. Il va bientôt être papa. Après avoir été plaquiste, il a décidé de suivre une formation de cordiste 5 jours en région parisienne. Pas de soucis physiquement, il est au taquet, il pratique la boxe. À l'issue de cette semaine, on lui fournira un certificat d'aptitude, passeport pour son nouveau métier. 5 jours, c'est court pour faire un cordiste autonome. C'est même impossible. Mais les ouvriers sont censés être encadrés, leur mission supervisée. Et puis, la gazette locale qui s'intéresse au sujet l'assure. La sécurité est la préoccupation numéro 1 dans ce milieu, pas comme les autres. C'est ce que racontent les représentants de la profession. Tous d'émanation patronale. En 2010, Carrare Service, l'employeur de Xavier, ne compte pas de morts à son palmarès. pas encore. Le chef de Xavier vérifie son baudrier, ses agrès. Les deux autres ouvriers ne vont pas descendre dans le silo. Ils ont affaire en haut. C'est donc seul que Xavier est envoyé à l'intérieur du silo. Espace confiné. En milieu confiné, l'assistance d'une vigie est obligatoire. Vigie qui donne l'alerte en cas de problème, qui porte les premiers secours le cas échéant, qui actionne le système d'évacuation. Mais de système d'évacuation, là, il n'y en a pas. Pas non plus de détecteur de gaz. Ce petit appareil obligatoire pour travaux en milieu confiné. Il détecte la présence de gaz nocifs à l'être humain. Au minimum, il mesure le taux d'oxygène dans l'atmosphère et sonne l'alarme si celui-ci n'est plus suffisant pour une respiration normale. Xavier devra se passer de détecteur. Pour l'instant, il est assis au bord du trou d'homme, ouverture cylindrique pratiquée dans la tôle, permettant d'entrer à l'intérieur du silo. Son chef procède à l'ultime vérification. Le descendeur est bien mousquetonné au baudrier. La corde bien passée dans le descendeur. Tout est OK. Le chef s'en va vers d'autres activités. Il ne sera donc pas question de vigie, ni à défaut de moyens de communication type talkie-walkie. Tout est OK? Presque. Un léger détail va s'avérer fatal. Tout cordiste travaille sur deux cordes. Une corde de travail sur laquelle il évolue, se déplace, grâce à laquelle il se positionne pour travailler. Une corde de sécurité sur laquelle il connecte un système anti-chute en cas de souci avec la corde de travail. Il y a bien une corde de sécurité installée, mais elle passe par une petite ouverture située à 3 mètres du trou d'homme que s'apprête à emprunter Xavier. Et par conséquent, cette corde de sécurité pend à 3 mètres de la corde de travail sur laquelle Xavier est accroché. Comment installer sur cette corde de sécurité son dispositif anti-chute? De surcroît, aucune des deux cordes n'est équipée de la protection prévue pour résister au frottement du métal si agressif. Le chef de chantier n'est pas censé ignorer les règles de l'art, ni les règles élémentaires de sécurité. L'antichute est le premier matériel à installer. D'ailleurs, une célèbre marque a explicitement baptisé son modèle d'antichute ASAP, acronyme de As Soon As Possible. Xavier cherche du regard une perche, un outil à long manche pour attraper la corde hors de portée et l'attirer à lui. Rien. Il décide alors de se balancer sur sa première corde, dans le vide, afin d'attraper la seconde. Une fois, deux fois, trois. Thank you. Et là, soudainement, Xavier se met à descendre de manière intempestive à une vitesse folle. Par réflexe, il attrape la corde qui défile devant ses yeux afin de se ralentir. Malgré les gants de cuir, la brûlure devient insupportable. Ses mains s'ouvrent. La chute s'accélère et s'arrêtera brutalement 16 mètres plus bas, l'équivalent de 6 étages. Pas une seconde, Xavier ne perdra conscience. S'il souffre le martyr, il ne connaît pas encore l'étendue des dégâts. Double fracture ouverte tibia péronée, fracture du fémur, rotule gauche en miettes, fracture costale pneumothorax, traumatisme crânien. Comme les pompiers ne peuvent l'évacuer par le fond du silo, ils le hisseront jusqu'en haut pour le redescendre par l'escalier. S'en suivront 3 mois d'hôpital, 2 ans en fauteuil roulant, de longs mois de rééducation et 10 ans de souffrance et d'injustice. Carrare Service n'a pas été très à cheval sur la sécurité, aussi bien en ce qui concerne les circonstances de l'accident que dans le déroulement erratique du chantier. La justice, quant à elle, n'a guère fait preuve d'excès de zèle. Xavier porte plainte au pénal. Le procureur, près le tribunal de grande instance de Reims, classe sa plainte sans suite. Ni Carrare Service, ni Béguinset, gros groupe sucrier, ne seront inquiétés. C'est ce même parquet qui n'a pas cru bon de faire comparaître Crystal Union, autre géant du sucre, au procès de l'accident qui a coûté la vie à Quentin, cordiste lui aussi, en 2017. Malgré le rapport accablant de l'inspectrice du travail, participant à l'enquête. En 2012, Carrare Service envoie à la mort 2 cordistes, Arthur et Vincent, dans un silo de la sucrerie Crystal Union. Le tribunal de Reims fera traîner l'affaire de façon inadmissible. La première audience a lieu en janvier 2019, 7 ans après le drame. Les 2 entreprises sont condamnées. Malgré la clémence du jugement, elles feront appel. La procédure est relancée pour des années. Plus d'un an et demi après cette première audience, aucune nouvelle de l'audience d'appel. Et la Chambre sociale de Reims attend le jugement pénal final pour examiner la faute inexcusable de l'employeur. Le 4 octobre 2010, Xavier fait aussi, lui, une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après moult reports, l'audience en première instance a lieu le 26 avril 2019. Le 5 juillet 2019, soit plus de 9 ans après l'accident, la notification de décision tombe. Xavier est débouté de sa demande. Au prétexte qu'il échoue a rapporté la preuve que son employeur n'aurait pas pris les mesures nécessaires à la préservation de sa santé et de sa sécurité. Et aussi, l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l'accident est indéterminée. On ne peut pas dire que la justice ait assidûment cherché la cause de cet accident. Encore plus qu'ailleurs, dans la Marne, mieux vaut être patron d'une grosse entreprise sucrière dans l'idéal, plutôt qu'ouvrier cordiste. Au passage, Béguincet a fait preuve d'un altruisme et d'une attention exemplaires. Un dirigeant est venu voir Xavier sur son lit d'hôpital. Et il lui a assuré, écoutez bien, il lui a assuré qu'il pourrait, quand il serait rétabli, bien sûr, bénéficier de tout le sucre dont il aurait besoin gratuitement. Sincérité ou ironie, Béguincet pèse 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le kilo de sucre est à moins d'un euro en supermarché. Accessoirement, le Ponte voulait savoir si Xavier comptait porter plainte. Malgré ses terribles séquelles physiques et psychologiques, malgré la dislocation de son couple suivant l'accident, malgré le manque de sa petite fille de 10 ans qu'il n'a pas vue depuis 2 ans, Xavier demeure combatif, déterminé. Après le coup de massue du jugement de la Chambre sociale de Reims, il décide de faire appel. Son avocate se montre timorée. Il confiera alors ses intérêts à un de ses confrères. L'audience est fixée au 28 octobre 2020 à la cour d'appel de Nancy. Comme la plupart des victimes d'accidents du travail et la plupart des proches de ceux qui sont décédés au travail, l'argent n'est pas son moteur. Il veut entendre dire, voir écrit, que Carrare Service est responsable de sa chute. Il veut l'entendre dire pour pouvoir dormir tranquille. Un des autres espoirs de Xavier serait de retravailler. Et puis, je vais vous lire quelques commentaires de cet article. Commentaire du 31 août par Bertz. Encore un exemple, comme s'il en manquait, de cette société pourrie par l'oligarchie et sa justice à deux vitesses. À vomir. Xavier n'est pas mieux considéré que de la chair à canon sur le front du capitalisme. Courage, Xavier. Et pour les suivants, ne jamais avoir honte d'utiliser son droit de retrait quand on estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Mieux vaut perdre son boulot avec ce type d'employeur que de se tuer, voire en tuer d'autres avec soi. Qu'on fasse cet autre accident de grue à Toul, qui a causé la mort de 6 élèves de 17 à 19 ans dans le lycée balayé par la grue effondrée. Sur le lien que je vous porterai sur la page de l'émission. Extrait d'un article de Libération en 1997. Autre commentaire par Naville. Le plus gros problème reste que les dirigeants ne sont pas responsables sur leur propre denier. Au pire, ils sont virés, avec un bonus que nous mettons des décades à gagner à la sueur de notre front. Commentaire suivant de Marina Mesure. Travail mortel en août. 30 salariés en août ont perdu la vie au travail. Écrasé par un générateur électrique de 2,5 tonnes. Décédé au volant d'un camion suite à un malaise, victime d'un coup de chaud. Violemment heurté par le bras télescopique d'un tracteur. Écrasé par un arbre. A chuté depuis la terrasse d'une maison, happé par une foreuse. Il et elle avaient 19 ans. Pour cette ouvrière, 30 ans cet éboueur, 30 ans cet ouvrier agricole, 30 ans cet électricien, 31 ans cet ouvrier du bâtiment, 35 ans ce psychologue, 38 ans cet ouvrier agricole, 45 ans cet agriculteur, 46 ans cet ouvrier, 47 ans ce moniteur de rafting, 43 ans, ce routier. La cinquantaine, cet ouvrier du BTP. 52 ans, cet élagueur. 53 ans, cet autre ouvrier du BTP. 53 ans, ce marin. 54 ans, ce bûcheron. 54 ans, ce transporteur. 54 ans, cette agricultrice. 54 ans, ce routier. 55 ans, cet autre chauffeur routier. 56 ans, ce chauffeur de bus. 57 ans, cet ouvrier BTP. 60 ans, cet autre ouvrier de BTP. 60 ans, ce technicien de maintenance. 62 ans, cet ouvrier agricole. 62 ans, ce mécanicien. Ils sont décédés dans un accident du travail. Des dizaines de vies brisées. Combien d'articles de presse, de journal télévisé pour parler d'eux? Les causes de ces accidents? Les conditions de travail? Le chantage à l'emploi? La litanie de faire toujours plus avec moins? L'absence ou non-respect de mesures de santé et de sécurité? La source de Marina, c'est « Accident du travail, silence, des ouvriers meurent ». vous trouverez aussi le lien pour écouter le reportage de Franck Desprez, profession cordiste, qui donne la parole à ces forçats des silos. Il a été primé au dernier festival Longueur d'onde. Autre commentaire par le Salévien. Au moins autant que les entreprises, il faut dénoncer les procureurs qui classent ces affaires et aussi les juges qui ne condamnent pas les coupables quand ils sont employeurs. Justice de classe, justice criminelle, il faudra un jour faire un grand ménage. Ce jour-là, ça va débarrasser et fort. Il ne restera plus grand monde là-dedans. Alors, un petit résumé de l'article de Franck Desprez. Ils étaient tous débutants, intérimaires, à peine formés. Ils devaient détacher d'énormes blocs de résidus de céréales ou de sucre dans des silos mal aérés et obscurs de l'agro-industrie. Ces cordistes y descendaient en rappel. L'un d'eux n'est jamais remonté. Quentin Zahraoui Bruat est mort, enseveli sous 370 tonnes de grains, le 21 juin 2017 dans la Marne. Il avait 21 ans. Cet accident mortel n'était pas le premier. Sur le même site, dans un silo voisin, Arthur, 23 ans, et Vincent, 33 ans, sont morts, ensevelis 5 ans plus tôt. Chaque fois, l'entreprise et les circonstances sont les mêmes. Reporter a enquêté sur ces accidents mortels. Une image d'Épinal colle aux cordistes, celle des fous d'altitude qui parcourent le monde pour entretenir les gratte-ciels, les cathédrales, la pyramide du Louvre et même les jardins suspendus. Oh, le métier extraordinaire! Comporte bien des risques, on ne le nie pas. Mais comme l'affirmait encore récemment une journaliste de France 2, la sécurité est la préoccupation numéro un dans ce métier dangereux qui ne compte pas de morts et de très rares blessés chaque année. Pas de morts? Vraiment? À Bazancourt, dans la Marne, 3 cordistes ont perdu la vie dans les silos de Cristal Union, deuxième groupe sucrier français, en l'espace de 5 ans. Le 13 mars 2012, Arthur Bertelli, 23 ans, et Vincent Dequin, 33 ans, mouraient ensevelis sous des centaines de tonnes de sucre lors d'une mission de nettoyage. Le 21 juin 2017, c'était au tour de Quentin Zahraoui Bruat, 21 ans, d'être enfoui sous 370 tonnes de résidus de céréales dans un silo appartenant à la distillerie Cristanol, filiale de Cristal Union. On peut lire à ce sujet les enquêtes publiées sur bastamag.net. Ce 11 janvier 2019, 7 ans après le premier accident mortel, Cristal Union et Carrar Service, son prestataire de nettoyage de l'époque, sont jugés au tribunal correctionnel de Reims. Ces deux sociétés et leurs responsables d'alors sont inculpés de blessures et homicides involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Ils ont été prisonniers dans un lieu où la seule issue possible a été la mort. Les cordistes sont censés déployer leurs cordes exclusivement là où tout autre équipement et technique d'accès, comme la nacelle, sont impossibles ou encore plus risqués. Autant dire que les tâches de nettoyage, d'entretien, de réparation les plus improbables par tous les temps, souvent loin du domicile, dans des conditions exténuantes et pénibles, sont pour eux. Loin des paysages somptueux, des monuments, des buildings, où les médias nous ont habitués à voir évoluer les cordistes comme des artistes, il y a les milieux confinés, et donc les silos obscurs et étouffants de l'agro-industrie. Le site agro-industriel de Pomacle-Bazancourt forme l'une des plus grandes bioraffineries au monde. Elle emploie 1 200 personnes et fait vivre localement environ 8 000 personnes, selon Olivier de Bohan, président de Crystal Union. L'objectif commun des différents acteurs de biotechnologie, bioéthanol, bioplastique, bioéconomie qui la composent est de participer au remplacement des énergies fossiles par l'utilisation des ressources végétales et le développement de la chimie verte. Les betteraves, par exemple, sont aussi bien transformées en sucre par Crystal Union qu'en éthanol ou bioéthanol par sa filiale, Cristanol. Dans les silos de Bazancourt, les cordistes étaient chargés de casser à la pioche, à la pelle, à la houe ou encore au marteau-piqueur les blocs formés par le sucre ou les résidus de céréales qui ont durci sur les parois. Le déroulement de l'accident, nous le connaissons. Il est certain que la sécurité a manqué dans ce drame. Les deux cordistes ne sont pas morts par manque de compétences ou d'expérience en milieu confiné. Ils ont été prisonniers dans un lieu où la seule issue possible a été la mort, déclarait au cours d'un hommage à Bazancourt Marion Vernet, qui était la compagne d'Arthur Bertelli. Les conditions chaque fois sont les mêmes, chaque fois ils sont dans les silos, chaque fois une trappe s'ouvre, dit Fanny Maquin, compagne de Vincent Dequin. Les accidents de Bazancourt présentent une circonstance similaire troublante, l'ouverture inopinée des trappes de vidange au fond des silos, qui évacuent la matière, tandis que les cordistes se trouvent au-dessus durant leur opération de nettoyage. Ça faisait seulement 10 minutes que Frédéric Soulier travaillait pour sa toute première mission à Bazancourt quand il a vu et senti le sol se dérober sous nos pieds jusqu'à former un trou d'à peu près 1 mètre de rayon qui s'est automatiquement refermé sur chaque victime. Connaissez-vous Arthur Bertelli, Vincent Dequin, Quentin Zahraoui-Bruat? Cordiste depuis 6 ans au moment de l'accident, Frédéric Soulier est l'un des 2 rescapés, remonté sain et sauf du silo. Contrairement à ce qu'exige la législation, il n'y avait aucun moyen d'évacuer une personne en cas de danger, affirme-t-il. Il sera présent aux côtés de Fanny Maquin et Marion Vernet au procès du 11 janvier. Les proches de Quentin Zahraoui-Bruat, mort 5 ans plus tard, seront là également. Tous font partie de la toute récente association Cordistes en colère, Cordistes solidaires, qui appelle toute la profession à se rassembler devant le tribunal correctionnel de Reims et à organiser un week-end de rencontres les 12 et 13 janvier, destiné aux cordistes de toute la France qui souhaitent s'organiser pour défendre leurs droits face aux employeurs. C'était l'article de Franck Desprez, paru dans reporter.net. P. publié le 11 janvier 2019. En complément, un documentaire sonore inédit intitulé « Profession cordiste », des gestionnaires premiers de cordée, des intérimaires premiers de corvée. Le sujet le plus développé, fruit d'un an de travail, se penche sur le cas de Bazancourt pour interroger une profession méconnue, dominée par un syndicat patronal, où les accidents mortels continuent de se produire. Et puis les autres. À Nîmes, en mars 2018, chute d'un ouvrier depuis le balcon où il travaillait à 15 mètres du sol. À Nice, le 9 juillet, à Roquette-sur-Var, chute de 15 mètres d'un cordiste sur un chantier BTP. Et à Biot, en août 2018, écrasement d'un ouvrier par un bloc de rocher qu'il faisait exploser. Dans une totale indifférence, sans qu'il ne soit recensé ou suivi d'actions transparentes. Voilà, vous pourrez relire et écouter et voir vidéos et enregistrements sonores de Franck Desprez à partir des liens que vous trouverez sur cette page. Merci de votre écoute. À bientôt.